Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, comme promis, direction le Népal avec Sophie Jovillard. Rebonjour.
Rebonjour, voilà, namasté.
Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes donc partie pour cette destination pas comme les autres, le Népal, pour l'émission Échappée Belle sur France 5. On fait toujours ça, on commence par se situer, on est où ?
Alors le Népal, c'est un pays qui est tout en longueur, hein, en fait, qui est situé vraiment entre les deux géants que sont l'Inde et la Chine, bordé bien évidemment par la chaîne de l'Himalaya. Et l'Everest, c'est le sommet symbolique, hein, de l'Himalaya, qui marque aussi une frontière avec le Tibet. Et c'est quand même le pays qui a vu naître Bouddha. Le Népal, c'est vraiment un pays absolument fascinant, c'est une république démocratique.
Hein. Ah oui, c'est pas une monarchie, je pense.
Alors c'était une monarchie, d'accord. C'est pour ça qu'on se trompe, c'est aujourd'hui une république démocratique fédérale, et c'était une monarchie jusqu'en 2008. Mmh. Hein, le premier président a été élu en 2008 et aujourd'hui c'est une présidente qui gouverne ce pays. C'est une femme.
Ça en fait un pays précieux aussi et novateur. Mmh. Le Népal, Katmandou, le mont Everest, destination légendaire. Équipez-vous, on commence un trek par un trek sur les pentes de l'Himalaya. Restez avec nous les curieux sur RTL.
RTL.
La vraie curiosité ici, c'est que les deux religions majeures du Népal sont mêlées. T'as le stupa qui est clairement le monument bouddhiste, et ici tu as en face un temple hindouiste.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors si tu veux participer à la coutume locale, je t'invite à tourner les moulins. On appelle ça des manis au Népal.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bienvenue au Népal et merci à Sophie Jovillard de nous servir de guide et premier extrait de votre émission Échappée Belle qui sera diffusée le mois prochain sur France 5. Alors la première idée qui me vient, la première image qui me vient quand je prononce Népal, c'est la chaîne de l'Himalaya, c'est le pays des géants. C'est combien de sommets parmi les plus mythiques ?
Mais oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment le pays des géants. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein, d'ailleurs. Il y a 8 des 14 plus hauts sommets du monde qui se trouvent au Népal. Alors, il y a l'Annapurna, le Makalu, l'Everest, bien évidemment, hein, qui culmine à 8848 mètres d'altitude, pardon. Ouais. Et on parle souvent des 8000. Hein. Quand on part là-bas, on veut partir vraiment à l'assaut de ces plus hauts sommets. Mais on n'y va pas que pour ça, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, mais voilà, on y va aussi pour ça.
C'est un pays de spiritualité.
Exactement, un pays de randonnée aussi, tout simplement, hein, sans vouloir faire les 8000. Ouais. Et puis c'est vraiment un pays empreint de spiritualité, et c'est ça qui rend ce pays absolument extraordinaire.
Pays, j'imagine, très touristique avec ces géants, avec l'Everest qui est devenu un vrai business.
C'est devenu un business. Il y a d'ailleurs une base de données. Hein, on recense tous ceux qui veulent faire ces plus hauts sommets. Il y a une base de données où on recense à la fois les ascensions, les expéditions dans l'Himalaya, mais aussi les accidents et les morts. Puisqu'il faut aussi penser à ça. Ça ne s'improvise pas de vouloir faire les 8000. Je crois que depuis 1920, on a recensé plus de 200 personnes mortes sur l'Everest. En général, on ne retrouve pas les corps. Hein. Les corps restent là-haut. Alors, je commence par une note un peu négative, mais il faut quand même le dire, puisque au sommet de l'Everest, il y a cette zone qu'on appelle la zone de la mort, hein, où le taux d'oxygène est 3 fois inférieur par rapport au niveau de la mer. L'organisme est privé des réserves d'oxygène. Donc voilà, quand on arrive pour faire les 8000, il faut être très très bien préparé. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que ça à faire.
Hein. Où vivent les Népalaises qui vivent dans un environnement dur? Ils sont dans les vallées. Ça ressemble à quoi leur vie?
Alors le pays est très contrasté. Hein. En effet, il y a ces hauts sommets, donc une vie plutôt en montagne. D'ailleurs, les Sherpas, on en parlera peut-être dans un instant, sont plutôt bien adaptés à ce milieu-là. Mais il y a aussi également des vallées. On vit au bord aussi des rivières, puisque qui dit montagne dit rivière. Donc on vit dans ces villages-là. Et puis sinon, on vit en effet dans des grandes villes comme Katmandou. Là, qui est une ville gigantesque, très polluée d'ailleurs.
Mais moi, quand je vois un environnement quand même où la nature est hostile, que l'environnement que vous venez de décrire, les sommets de l'Himalaya, il y a des populations qui se sont installées là. Oui, on se demande pourquoi.
Mais parce que c'est vrai que c'est un pays qui attire. Beaucoup arrivent également du Tibet, hein, voisin. On parlait des Sherpas à l'instant. C'est vraiment les vrais héros des montagnes, les Sherpas. Sherpa, ça ne veut pas dire porteur. Hein. Sherpa, ça veut dire le peuple de l'Est du Tibet. Ils se sont vraiment adaptés à ce milieu-là. Ils ont vécu, ils vivent toujours en montagne. Ils se sont toujours installés à la fois dans les vallées himalayennes, et à la fois dans ces montagnes. On a toujours fait appel à eux pour gravir ces sommets parce qu'eux sont habitués à ces conditions de vie assez rudes, assez extrêmes, habitués à la marche et la vie en montagne.
Alors, en France, quand on pense au sommet de l'Himalaya, on a souvent l'image des pionniers qui étaient Maurice Herzog et Louis Lachenal, les héros, les pionniers de l'Annapurna. On est en 1950 quand ils réalisent cet exploit. On a retrouvé une archive à l'INA, c'est Maurice Herzog qui raconte l'Annapurna. Alors c'est quelques années plus tard, écoutez-le.
La victoire que nous sentons à notre portée tient à quelques heures de beau temps. Nous approchons du moment attendu depuis des mois. Une intense surexcitation nous gagne. Il faut contourner d'immenses crevasses. À chaque pas, nous enfonçons jusqu'à mi-jambe. Nous pénétrons dans un monde étrange qui n'appartient presque déjà plus à la Terre.
Sophie Jeuvillard, ces paysages de montagne, qu'est-ce qu'ils ont d'étrange, qu'est-ce qu'ils ont de particulier au Népal ?
C'est vraiment une fois de plus la sérénité, je trouve, hein, qui ressort en premier lieu lorsqu'on découvre ces paysages-là. Là, on vient d'entendre des archives absolument exceptionnelles qu'on peut découvrir au Musée international de la montagne qui se trouve à Pokhara. Et si je vous parle de Pokhara, c'est parce que là aussi, il y a des paysages exceptionnels autour de lacs, par exemple, et de rivières dont je vous parlais tout à l'heure.
Comment vous avez vécu dans votre chair l'altitude, Sophie Jeuvillard ?
Alors, non, moi, je l'ai plutôt bien vécu parce que je voudrais insister sur le fait que lorsqu'on va au Népal, lorsqu'on fait un voyage au Népal, on n'est pas obligé de faire que ces sommets-là. Ce n'est pas que l'alpinisme, le Népal. Il peut y avoir des randonnées tout à fait accessibles à 2000, 3000 mètres d'altitude. Votre corps s'habitue comme si vous alliez en montagne en France. Donc vous pouvez vous habituer très bien. C'est des grandes marches, du trek, de la randonnée accessible vraiment à tous.
Et puis il y a des surprises au Népal. Tiens, dans un instant, on vous emmène dans la jungle à la rencontre d'une vétérinaire, une Française, qui soigne les éléphants. A tout de suite, les curieux sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Le Népal tutoie les cieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La plus haute montagne du monde, celle de la chaîne de l'Himalaya, lui donne une dimension mystique.
Grand-père, j'ai ramassé tout ça pour la maison.
C'est une belle récolte. Mais à ton avis, tout ça, ça nous donne à manger pour combien de jours ?
Pour beaucoup de jours, beaucoup, pour la vie entière.
Sur RTL.
Extrait du film Himalaya, l'enfance d'un chef, film d'Éric Valli, et c'est Sophie Jeuvillard, globe-trotteuse, journaliste, animatrice de France 5, de L'Échappée Belle, qui nous emmène découvrir les secrets de cette destination mythique, mythique depuis les années 60. Qui a lancé la découverte de ce pays par les Occidentaux ?
C'est vrai que c'est vraiment une destination mythique et mystique. C'est vrai qu'il y a eu une longue période de fermeture en fait, du Népal, donc les Occidentaux n'avaient pas accès réellement au Népal, on va dire jusqu'aux années 50. Et puis, peut-être que les premiers Européens à être entrés, ce sont peut-être les missionnaires chrétiens. Il y avait déjà des Anglais qui étaient en Inde. Et puis, dans les années 60-70, ça devient vraiment la destination hippie par excellence. Et petit à petit, il y a une autre forme de tourisme qui va se développer. C'est encore le cas aujourd'hui. On peut parler de presque de tourisme spirituel avec une quête de sagesse. C'est ce tourisme autour, par exemple, du yoga, emprunt comme ça, d'une grande spiritualité et envie comme ça, de s'ouvrir aux autres et d'ouvrir ses chakras.
Oui, alors ouvrons nos chakras justement, Sophie Jeuvillard. Vous êtes venue avec un certain nombre de cadeaux, merci beaucoup d'abord. Alors il y avait ces... j'ai ouvert ça, donc c'est quoi
c'est des... Alors ce sont des drapeaux que vous avez devant vous, alors, ce sont des drapeaux de prière. Alors,
bien sûr, pour les décrire, on peut voir tout ça.
Pour les décrire, pour ceux qui nous écoutent, ce sont des drapeaux de plusieurs couleurs. Oui. Le bleu signifie le ciel, le blanc l'air et les nuages, le rouge le feu, le vert l'eau et le jaune la terre. Il y a des prières qui sont inscrites sur chacun de ces drapeaux.
Il faut les dérouler, c'est ça ?
Les dérouler, les mettre à l'extérieur. Et puis, le vent va amener vos prières jusqu'aux esprits, jusqu'aux dieux. Et voilà, il faut les poser dans sa maison, à l'extérieur. C'est une offrande. C'est vraiment quelque chose qu'on offre aux gens qu'on aime bien.
Vous avez offert à un Jean que vous aimez bien, Thomas Hugues, Sophie Jeuvillard, une écharpe orange.
Exactement.
C'est pour lui faire un petit maillot.
Mais voilà, non, c'est pas du tout.
Vous êtes vilain parce que c'est une écharpe de.
Vilaine, surtout.
C'est une coutume d'offrir cette écharpe en bienvenue, en une façon de se saluer. Vous la mettez autour de vous, et ça me ferait très plaisir. Voilà, bienvenue. Et une fois de plus, namasté, bien évidemment.
Quelles sont les religions qui ont cours au Népal?
Alors, hindouisme et bouddhisme, principalement, mais il y a une vraie entente, si j'ose dire, entre les religions, et c'est ça qui est assez rassurant. Les temples voisinent avec les stupas, les lieux de culte, et il n'y a pas de discrimination, pardon. En tout cas, moi, je n'en ai pas constaté, et c'est ça qui est assez, assez bien dans ce pays-là.
Il y a une autre séquence aussi qu'on voit dans votre film. C'est quoi? C'est comme des moulins de prière?
C'est exactement ça, oui. C'est vraiment les moulins de prière, les manis qu'on trouve en effet souvent dans les stupas. Et là aussi, le fait de les faire tourner, il y a des mantras, des prières qui...
Qui sont
gravés, c'est comme des cylindres en fait, que vous faites tourner. Et bien les prières, là aussi, peuvent rejoindre les esprits.
Sophie Joviard, le Népal, c'est pas seulement des sommets à gravir, des grandes balades, c'est aussi la jungle. Et vous avez eu la chance d'y aller. Vous nous emmenez où et ça ressemble à quoi?
Alors, je vous emmène au parc du Chitwan. Là, on se rapproche un petit peu de la frontière de l'Inde. C'est vrai que c'est assez surprenant. On ne s'attend pas du tout à ça en pensant à cette destination. Il y a une faune et une flore absolument incroyables. Et j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme, une Française, qui s'appelle Floriane, qui travaille pour une ONG qui s'appelle Stand Up for Elephant, qui est soigneuse. Et elle permet aux éléphants de vivre des happy hours. Vous savez, ces éléphants...
Ce n'est pas des apéros, ça n'a rien à voir.
Non, vous allez voir, c'est très sérieux. L'apéro, c'est dans la rivière.
Ils ne sont pas forcément bien traités.
Et non, justement, c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir vous en parler, parce qu'en effet, ces éléphants sont utilisés, vous savez, pour des balades. Ils ont des fauteuils, des sièges sur le dos, et ils transportent toute la journée énormément de monde sur leur dos, qui viennent 5, 6, 7, mais des fois plus en balade pendant une heure. Cette association, au prix que vous allez payer pour une balade, vous propose d'investir cet argent pour permettre à l'éléphant de vivre une heure de liberté. Alors vous allez pouvoir l'accompagner pendant qu'elle prend soin des éléphants, c'est très sérieux, et après pouvoir l'accompagner à la rivière. Vous allez voir les éléphants, prendre l'éléphant, prendre son bain, ou encore se balader au milieu des villageois et des troupeaux qui sont là.
Super.
C'est vraiment un très très beau moment, une très belle association. C'est vrai que je vous conseille plutôt de faire ça que de vous balader à dos d'éléphant.
Vous avez croisé d'autres animaux, Sophie Joviard?
Alors oui, alors, il y a les rhinocéros, des rhinos unicornes. J'ai pas eu la chance de voir le tigre du Bengale, mais pourtant il y en a là-bas énormément. Voilà, une fois de plus, une faune absolument exceptionnelle.
Et puis dans ce parc, on peut circuler aussi sur l'eau.
Oui.
Avec quel moyen de transport?
Écoutez, là on est vraiment sur des embarcations qui vous permettent en effet d'apercevoir quelques crocodiles parfois. Oui. Mais c'est vrai que c'est très beau parce que
aussi.
Oui, c'est ça, dans des pirogues. Oui. Et voilà, et là vraiment vous êtes au fil de l'eau, donc n'ayez pas peur des crocos qui vous sauteront absolument pas dessus. Ils sont plutôt assez placides, mais ils sont en pleine liberté.
Je vais pas laisser traîner les pieds dans l'eau.
Non, voilà, laissez pas traîner.
Oui, agitez pas votre écharpe de bienvenue orange.
Calme.
Restez sage. Sophie Joviard, on est au Népal avec nous et c'est formidable. Avec vous, pardon, depuis 20 minutes sur
RTL. Avec nous aussi,
tous ensemble. Tous ensemble.
Et moi, je me dis, on n'a pas visité Katmandou.
Bah oui.
Ah oui, c'est dommage.
On y va? Bon, d'accord.
Allez,
on commence la journée par le rituel du thé.
Très bien.
RTL.
Je suis au Népal, dans la région du Mustang, au nord-ouest de Katmandou. C'est là que se trouve la cité de Lomantang, à 4000 mètres d'altitude.
La curiosité est un vilain défaut.
Autrefois capitale du royaume du Mustang, Lomantang semble aujourd'hui être l'une des cités les plus isolées du monde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le Népal dans la curiosité sur RTL et avec Sophie Joviard qui s'est rendue pour l'émission Échappée Belle sur France 5. Alors nous voilà enfin à Katmandou. Déjà, dites-nous, c'est quoi votre première impression en arrivant? C'est une grande ville?
Alors, c'est une grande ville. Est-ce que je peux être honnête avec vous?
Ben
vous
oui.
voulez vraiment ma première impression?
C'est moche.
La pollution.
Non, c'est pas moche, c'est la pollution.
Ah oui.
C'est vraiment ce qui est frappant dès le début. Alors, c'est vrai que je pourrais vous faire rêver tout de suite, mais je crois que le rêve, il est autour de Katmandou, même si Katmandou reste vraiment une ville fascinante. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Oui,
mais c'est
on
vrai
va
que...
y passer un peu de temps quand même.
Oui,
mais
il faut y passer un petit
pollué.
Peu de temps. C'est assez pollué, c'est même très pollué.
Donc, ça prend aux bronches et au nez tout de suite.
Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite envie de prendre un peu d'altitude. Moi, j'ai eu la chance de découvrir le Népal et Katmandou avec un Français qui est installé là-bas, qui s'appelle Benoît Perrault, qui est marié à une Népalaise, qui s'appelle Pasang, et qui organise des treks, qui s'appelle Népatrek, et qui organise des treks. Il fait passer ses parcours très souvent par Katmandou, parce que c'est le passage obligé. Vous avez des temples absolument magnifiques, l'un des plus beaux stupas du monde, qui est le stupa de Bonnath, donc il faut y aller à Katmandou. Voilà, vous allez être surpris. Vraiment, vous allez être surpris et peut-être un petit peu, oui, un peu désarçonné par cette ville, une fois de plus.
Est-ce que c'est une ville quand même assez moderne? Je sais pas, il y a des grands immeubles, ça ressemble à quoi?
Il y a un petit peu de tout, il y a un peu, ouais, un chaos architectural. Ah, il, oui, y a une population qui grimpe de manière exponentielle, et la ville, elle n'est pas calibrée pour ça. Ah, oui. Je crois que voilà, il y a une surpopulation indéniable, mais est-ce que ce bazar désorganisé fait pas partie aussi du charme de Katmandou, et c'est ce qu'on attend peut-être de là?
Sophie Jovillard, il y a aussi un rituel très important au Népal, à Katmandou et dans d'autres villes, c'est le rituel du thé. Où est-ce que les hommes et les femmes se retrouvent pour le boire?
Alors on le boit dans la rue, on le boit dans des petits cafés qui ne ressemblent pas à nos petits cafés, hein. Et alors le thé, il est plutôt servi avec du lait très sucré aussi, on le boit très chaud, et il n'est pas rare qu'on l'accompagne aussi avec des momos.
C'est quoi les momos?
Les momos, c'est des petites bouchées qui sont épicées, qu'on boit avec un bouillon, qu'on mange et qu'on boit avec un bouillon, c'est assez épicé.
C'est salé?
C'est salé. Des petites bouchées qui sont avec des légumes, du poulet ou du bœuf, et on en mange à n'importe quel moment de la journée. Donc soyez pas surpris si on vous propose ces petites bouchées, ces momos.
Et est-ce que nos palais d'occidentaux doivent se méfier des épices au Népal?
Oui, un petit peu. Ouais. Moi, je vous conseille de vous méfier un petit peu et de faire attention.
Vous êtes passé par différentes couleurs.
Oui, exactement. Mais moi, vous savez, je voyage beaucoup depuis quelques années. Je suis assez prudente à ce niveau-là. C'est un sujet sur lequel il faut pas plaisanter si on veut passer un bon voyage.
Et dans votre film, Sophie Jovillard, diffusé le mois prochain sur France 5, on a également la chance d'assister à une fête unique au monde qui s'appelle le Pasni. C'est quoi?
Ah oui, ça c'est une grande fête qui est un passage, c'est ça, du bébé.
Oui,
hein, c'est la fête du bébé.
C'est quand le bébé a 6 mois, si je me souviens bien.
Alors le bébé, en effet, c'est un moment, lorsqu'il arrive à ses 6 mois, on va lui faire arrêter de prendre le lait, ouais, et il va pouvoir commencer à manger des denrées solides.
Ah,
et
c'est
la
diversification alimentaire.
Exactement, et on va vraiment, la première chose qu'il va pouvoir manger, c'est le riz qu'on va lui donner sur une pièce d'or. Et là, toute la famille est rassemblée, les femmes sont habillées en rouge, elles sont absolument sublimes, le bébé est vraiment au centre de la fête, mais c'est la famille élargie, hein, c'est l'événement majeur dans la vie de ce bébé, le pauvre petit chaton
qui se retrouve avec du riz dans la bouche,
avec son premier grain de riz dans la bouche. C'est assez surprenant, hein.
Et chaque convive qui met un grain de riz,
exactement,
sur la pièce d'or et qu'il lui donne.
Donc à la fin de la journée, pauvre bébé, c'est vraiment un passage, ouais, à l'aliment solide qui n'est pas évident à vivre pour lui.
Alors, il y a un autre site à découvrir, c'est le Temple des Singes. Alors, ce Temple des Singes, il se mérite d'abord. Pourquoi?
Parce qu'il y a 300 marches à gravir. Oui. Hein, c'est vraiment le Temple des Singes qui porte bien son nom, parce qu'en effet, les principaux locataires de ce temple sont en effet des singes. Il s'appelle Swayan Bhunath. Il faut y aller parce que là, vous avez quand même une vue absolument magnifique, hein, sur Katmandou. C'est un des plus anciens lieux saints bouddhistes de Katmandou, avec le stupa de Bhunath dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment une très belle illustration des différentes religions qui cohabitent dans ce pays en toute harmonie.
Mmh. Allez, on s'offre une dernière expérience grâce à vous, Sophie Jovillard, une thérapie pas comme les autres.
Ce petit groupe suit un stage de 3 jours auprès de Maître Shri, guérisseur par le son.
La technique du chant en bouche de poisson. Parfois, les gens ont mal au dos, aux genoux, les douleurs musculaires, aux veines. Si on pose le bol à l'endroit où on a ces douleurs et qu'on le fait résonner, les douleurs disparaissent.
Vous l'avez testé, Sophie
Jovillard? Oui, je l'ai testé. Il s'agit de bol chantant. Le son que vous entendez existe vraiment. Alors, très très rapidement, on le fait avec un petit maillet en tapant sur ce bol. Et ça a des vraies vertus. Moi, je l'ai essayé dès le début du voyage. Il y avait un sacré...
Quoi?
Oui, parce que juste le décalage horaire, la fatigue du voyage. Et en effet, c'est bluffant, cette vibration. Il faut être réceptif. Mais il y a vraiment une vibration grâce à ces bols chantants. Et moi, j'y crois. Et je pense que ça a un effet. Voilà, avec un petit... Il faut vraiment avoir envie d'y croire. Mais...
Avoir envie d'aller mieux.
Oui, ça fonctionne vraiment.
Merci beaucoup, Sophie Jovillard. Échappée belle. Échappée belle, c'est tous les samedis.
Exactement.
À 20h50 sur France 5. Vous n'êtes pas toute seule. Hein. Vous avez des collègues Globetrotters.
Exactement.
C'est ça,
Ismaël, Tiga et Jérôme qui m'accompagnent. Et donc, le Népal, ça sera le 13 avril.
Voilà, ce voyage au Népal, c'est le 13 avril. Merci encore, Sophie.
Merci
à bientôt.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.